Le journal Clara de Coquerel. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il n'y a pas que le Covid. N'oublions pas le dépistage et la prévention contre le sida. En cette journée mondiale de lutte, l'UNICEF alerte ce matin, son directeur général dans un instant. Et puis dans ce journal, nous irons à Cuba où la prévention contre le sida est bien organisée, vous l'entendrez.
Aujourd'hui, il faut aussi organiser la vaccination contre le Covid-19, mais comment recueillir le consentement des personnes âgées ? La question est posée.
Une crise sanitaire qui agace aussi dans les établissements scolaires. Les assistants d'éducation font grève aujourd'hui. Ils dénoncent la précarité de leur emploi, vous le comprendrez. Dans cette édition encore, la réécriture de l'article 24 pour encadrer les images de policiers dans des manifestations. Le gouvernement plie face à la rue, en partie en tout cas.
Et puis nous irons dans la région de Latchine, dans le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan s'empare aujourd'hui du dernier district occupé par des Arméniens. Notre envoyé spécial nous racontera.
Enfin, un invité particulier dans ce journal, Hervé Le Tellier, récompensé par le Goncourt 2020. Son roman L'Anomalie est serti depuis hier d'un joli bandeau rouge. Et nous commençons donc ce journal par un rappel. Ne pas faire passer les maladies graves au second plan derrière le Covid-19. Ne pas les oublier. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, le directeur général d'UNICEF le confirme, l'épidémie de SARS-CoV-2 pourrait aggraver la situation des personnes séropositives, pourrait augmenter, doubler peut-être le nombre de ces personnes dans le monde. Elles sont actuellement en France entre 25 et 30 000. Les jeunes pourraient être les plus touchés par la problématique du sida, tout comme les populations dites marginales, sans domicile, prostituées, migrants. Écoutez donc le directeur général d'UNICEF, Sébastien Lyon.
La pandémie de Covid-19 a entraîné des bouleversements dans nos sociétés. Et un de ces bouleversements importants, ça a été l'interruption des services de santé de base. Donc il y a beaucoup de pays dans lesquels on travaille où on a constaté que les centres de santé étaient fermés tout simplement pour respecter les mesures de confinement. Il y a un risque que la pandémie de Covid-19 vienne réaugmenter encore une fois ces chiffres en affectant un peu toute la chaîne, quoi. C'est-à-dire que les dépistages sont faits de manière moins rapide, les traitements sont moins disponibles. Si une maman voit son traitement interrompu pendant sa grossesse alors qu'elle est séropositive et qu'elle le sait, eh bien, il y a un risque que son bébé se voit transmettre le VIH-SIDA. Donc là, on voit qu'il y a des nouveaux cas qui apparaissent simplement parce qu'il y a une rupture de traitement pour sa maman. Les traitements contre le VIH pour les enfants dans certains pays ont chuté de 50 à 70%. Donc tous ces retards, disons, dans la chaîne de soins et la chaîne de prise en charge nous inquiètent et nous font craindre une résurgence de cas encore supplémentaires pour l'année 2020 et l'année 2021 d'ailleurs.
La peur donc pour certaines populations, rappelle ce matin l'UNICEF, mais il y a aussi de bons espoirs. Partons par exemple à Cuba, où le taux de prévalence du VIH est très faible, où la transmission du sida entre la mère et l'enfant, par exemple, a été éliminée dès 2015. Le tout grâce à une forte prévention, même en temps de Covid. C'est le constat de notre correspondante à La Havane, Domitil Piron.
Yuri Ferrer Salvine vit depuis 22 ans avec le VIH. Aujourd'hui, il fait partie des 10 000 promoteurs de santé du réseau national des porteurs du VIH. Son engagement fait partie de la politique de prévention nationale, même en temps de Covid.
Imaginez-vous, j'ai le sida, de l'hypertension et je suis diabétique. Autant dire que je me suis senti préoccupé, mais je me suis aussi occupé.
Cuba considère que les séropositifs ne sont pas plus vulnérables que d'autres à la Covid. Il a donc pu continuer ses activités de prévention. Prévention, isolement et recherche des cas contacts, ces méthodes déjà appliquées contre le sida, Cuba les a mises en place dès janvier contre le coronavirus. Très critiqué pour sa gestion autoritaire de l'épidémie du VIH dans les années 80 avec les sanatoriums et l'internement obligatoire des séropositifs, Cuba estime avoir ainsi pu gérer la propagation de l'épidémie. Selon la médecin et chef du département de prévention du VIH, Maria Isela Lantera, la gestion d'une épidémie est surtout une question de volonté politique.
Je n'oserais pas par modestie dire que c'est notre expérience avec le VIH qui a aidé le pays à gérer le Covid. Mais ce qui aide vraiment, c'est l'organisation du gouvernement. Il s'agit d'une politique de santé publique dans un pays où il y a de l'ordre, une organisation et une volonté.
Sur un total de 11 millions d'habitants, Cuba compte 28 364 porteurs du VIH et à ce jour, seulement 8280 personnes ont été contaminées par le coronavirus.
Domitil Piron depuis Cuba pour France Culture. Le coronavirus plus ou moins virulent donc en fonction des pays. La crise que la pandémie engendre en revanche, elle, est bel et bien planétaire. Preuve en est ces chiffres de l'ONU ce matin. Le nombre de personnes qui dépendent d'une aide alimentaire va atteindre un nouveau record, 235 millions de personnes en 2020. C'est une augmentation sur un an de 40%. Alors pour s'en sortir le plus rapidement possible, certains ont l'espoir d'une vaccination mondiale contre le SARS-CoV-2. Aux États-Unis, la commission chargée des vaccins, rattachée à l'agence du médicament, va examiner la demande d'autorisation faite par le laboratoire Moderna le 17 décembre prochain, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines. Elle fera pareil un peu plus tôt, le 10 décembre, pour le vaccin de Pfizer. Cela signifie, selon les laboratoires, une vaccination envisageable dès le premier trimestre 2021. Une vaccination en France qui devra concerner en priorité le personnel soignant et les résidents dans les EHPAD. Ce sont les recommandations faites hier par la Haute Autorité de Santé. Et si les professionnels dans les EHPAD saluent cette priorisation, son application concrète pose, elle, beaucoup de questions, et notamment la question du consentement pour les personnes âgées. Hélène Chevalier a interrogé à ce propos le docteur Philippe Torrent. Il est gériatre à l'hôpital Simone Veil d'Aubonne-Montmorency, dans le sud du Val-d'Oise.
Le problème, c'est que si on durcit un peu les procédures et que l'on demande que ce consentement soit formalisé très précisément, c'est sûr que là, comme la majorité des résidents d'EHPAD ne sera pas capable de comprendre la procédure de vaccination et recevoir correctement l'information et l'intégrer, donc il faudra avoir recours à la personne de confiance. Il y en a très peu d'officiellement désignés. Aux tuteurs, on sait que c'est toujours compliqué parce que la majorité des tuteurs sont difficilement joignables ou se déclarent peu compétents et pas concernés. Et il faut trouver des procédures simples. Le risque, voilà, c'est effectivement de compliquer l'organisation de la vaccination alors qu'il faut agir rapidement.
La difficulté de vacciner donc en France quand 2 Français sur 5 environ disent vouloir se faire vacciner. Nous en venons maintenant à cette grève annoncée aujourd'hui dans les établissements scolaires. Grève des assistants d'éducation, plus connus sous le nom de surveillants. Le mouvement est parti il y a 10 jours de Marseille. Il a désormais gagné toute la France car, Thomas Larabi, les assistants d'éducation disent manquer de renfort face à l'épidémie.
Oui, alors que de nombreux surveillants sont absents car positifs au Covid-19 ou cas contact, la charge de travail, elle, s'est alourdie en raison du protocole sanitaire. C'est ce qu'explique Mohamed, assistant d'éducation à Istres, en grève aujourd'hui.
On se retrouve à être des agents de l'ordre public concernant le respect des sens de circulation pour les élèves ou le port du masque. Bien entendu, nos missions habituelles d'AED n'ont pas changé, elles. Bien qu'il y ait un effectif de 1240 élèves à peu près, on était 7 et on reste 7.
Les assistants d'éducation dénoncent également la précarité de leur emploi alors que le profil des surveillants est désormais bien loin de l'image d'Épinal de l'étudiant qui cherche à boucler ses fins de mois. Laurent Tramoni est secrétaire général du SNES Marseille.
On est aujourd'hui sur un statut qui est pour l'essentiel occupé par des adultes pour des contrats successifs de 1 an et au maximum de 6 ans. Et lorsque leur durée est terminée, on les remercie sans autre forme de procès, sans avoir pris la peine de les former et de leur proposer des passerelles, des voies d'accès adaptées. On pourrait considérer que des gens qui ont travaillé pendant 6 ans pour l'éducation nationale ont développé une expérience, ont des acquis. Pour peu qu'on les forme et qu'on leur propose des voies adaptées au concours de recrutement, on pourrait tout à fait leur proposer de s'investir de façon pérenne dans le service public.
Et dernière revendication, les primes dans les réseaux d'éducation prioritaires. Les surveillants n'en perçoivent aucune, à l'inverse des professeurs et du personnel de direction.
Thomas Larabi pour France Culture. Il n'y a pas de divorce entre la police et la population, c'est ce qu'affirme Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a répondu hier aux questions de la commission des lois de l'Assemblée nationale à propos des violences commises par la police ces dernières semaines, à la fois place de la République face à des migrants, face aux journalistes et aux producteurs passés à tabac, Michel Zecler. Gérald Darmanin sur un fil condamnant les violences individuelles et renouvelant aussi sa confiance au corps policier, promettant une meilleure formation. La reculade est plus flagrante en revanche à l'Assemblée nationale autour de la proposition de loi sur la sécurité globale. Proposition de loi qui vise notamment à encadrer les images des forces de l'ordre lors de manifestations. Sous la pression de l'Élysée lors d'une réunion organisée hier, la majorité parlementaire s'est dite prête à réécrire une partie du texte, Stéphane Robert.
C'est un demi-pas en arrière qu'a effectué le pouvoir exécutif hier. L'article 24 de la loi sur la sécurité globale n'a pas seulement généré d'importantes manifestations le week-end dernier, il divisait également les députés de la majorité, dont acte, a dit hier le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Christophe Castaner, dont acte, nous allons le réécrire. Le texte de loi voté à l'Assemblée la semaine dernière sera donc transmis en l'état au Sénat, qui pourra le rediscuter et l'amender. et c'est ensuite quand il reviendra devant les députés dans le cadre de la navette parlementaire que la nouvelle version pourrait être insérée dans la proposition de loi, à moins qu'elle ne soit introduite dans un autre texte en préparation, à savoir la loi sur le séparatisme. Tout ça est encore en discussion. Mais il ne sera pas supprimé, seulement réécrit pour lever les ambiguïtés. Parce que Gérald Darmanin y tient à cet article 24, il l'a redit lors de son audition devant les députés de la commission des lois hier soir, et qu'Emmanuel Macron, lui, tient à conserver Gérald Darmanin au sein du gouvernement. Il est en quelques mois devenu un ministre incontournable du dispositif macronien. Le chef de l'État a également enterré la commission que voulait créer Jean Castex pour confier la réécriture de cet article aux trois présidents de groupe de la majorité, La République En Marche, Le Modem et Agir. Il ne reste au président de la République qu'à espérer que ça suffira pour apaiser en interne comme en externe les contestations.
L'art politique de reculer sans trop paraître cédé. Frédéric Seyss y reviendra dans son billet politique. Ce sera après cette édition.
8h11 sur France Culture. La suite du journal de Clara Lecoq-Réal. L'Azerbaïdjan gagne du terrain dans le Haut-Karabakh.
Oui, les forces azerbaïdjanaises ont en effet annoncé ce matin leur entrée dans le district de Latchin, un district qu'elles reprennent aux mains des Arméniens, selon les termes du cessez-le-feu qui avait été signé au début du mois. Poursuivre cette répartition des terres dans le Haut-Karabakh, répartition vivement contestée. Éric Biegala est sur place pour France Culture. D'abord Éric, en quoi cette région de Latchin est-elle importante ?
Alors la région de Latchin, qui doit être rétrocédée aux Azéris aujourd'hui, le dernier en fait des districts qui devait être rétrocédé au terme des accords du 9 novembre, c'est la plus symbolique ou peut-être, faut-il dire, la plus stratégique des régions. C'est celle qui assurait encore une certaine continuité territoriale entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. Elle se situe exactement entre les deux. C'est une zone montagneuse d'environ 3400 km² avec une centaine de hameaux et un bourg, Latchin. 11 000 personnes y vivent en tout. Alors avant la guerre de 92-94, la région était majoritairement peuplée d'Azéris. Depuis 94 et leur éviction de la province, les Arméniens avaient pris le relais et s'y étaient installés.
Et aujourd'hui, Eric, ce sont donc les Azéris qui sont sur le point de revenir dans cette région ?
Oui, les Arméniens de Latchin sont censés rétrocéder la province et la plupart s'en iront sans doute. Hier, à Latchin, ils étaient encore nombreux à vider leur maison avant d'y mettre le feu pour ne rien laisser aux Turcs, m'expliquait par exemple le propriétaire d'une échoppe. Mais nombreux aussi sont ceux qui espèrent pouvoir rester et qui surtout espèrent pouvoir se mettre sous la protection des Russes. L'armée russe, en effet, est présente à Latchin. Elle est arrivée ces derniers jours, ces dernières heures. Elle s'installe notamment sur la route. Au terme des accords de cessez-le-feu, un corridor devra en effet être établi entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, protégé par l'armée russe. En clair, c'est la route de Latchin qui sera sécurisée et surveillée par les Russes et pas la bourgade. Il est donc à craindre que la totalité des Arméniens de Latchin auront à plier bagages dans les prochains jours.
Éric Biegala, et vous suivez ça évidemment pour nous, pour France Culture. Merci, vous étiez en direct de cette région de Latchin, près du Nagorno-Karabakh. Nous évoquions hier ici même l'absence inquiétante du président algérien hospitalisé depuis un mois en Allemagne à cause du Covid-19. Eh bien, Abdelmadjid Tebboune annonce qu'il rentrera dans son pays en Algérie dans les prochains jours. Son communiqué indique qu'il est en voie de guérison. Victoire certifiée aux États-Unis pour Joe Biden dans l'état de l'Arizona. De quoi renforcer un peu plus sa victoire face à Donald Trump pour la présidentielle. Le président élu, âgé de 78 ans, a désormais 306 voix au collège électoral contre 232 pour le président sortant. Et nous restons aux États-Unis puisqu'un débat anime le monde de la musique outre-Atlantique. Faut-il employer l'expression World Music lors des récompenses musicales, comme un thème lors d'une cérémonie ? La World Music était jusque-là une catégorie, notamment aux Grammy Awards, mais c'est terminé car le terme est jugé colonialiste, en tout cas aux États-Unis. Explication ce matin de Laurent Borde.
La World Music est une large catégorie qui regroupe aussi bien la musique africaine que les musiques New Age ou ethniques. C'est un terme symbolisant la diversité qui va disparaître aux États-Unis, mais certainement pas en France, selon Virginie Petit, directrice artistique des Victoires de la Musique.
On n'est pas comme les États-Unis, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même musique et on n'a pas la même cérémonie. La seule catégorie que nous ayons gardée, c'est la catégorie album World, qu'on a transféré dans la cérémonie des victoires du jazz. Et en fait, cette catégorie World, elle est pas tellement raciste chez nous. Quand vous voyez le résultat des lauréats depuis qu'elle existe, elle permet juste aux artistes qui ne rentrent pas dans toutes les autres catégories de pouvoir les garder. Si on ne gardait pas cette catégorie-là, on évinçait des artistes.
Lorsqu'on lui pose la question, Relema, pianiste de renommée internationale, explique que le terme de world music n'est pas une injure.
Je ne le trouve pas particulièrement injurieux, parce que dans le terme world music aujourd'hui, ça englobe plein de musiques en fait qui sont ouvertes au monde. C'est-à-dire, on trouve aussi bien les Bulgares que les Japonais. Tout ça, ici, c'est fourré dans la world music.
L'appellation world music va donc être remplacée dès janvier aux États-Unis pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards. Au final, un changement de nom qui ne va pas changer grand-chose pour les artistes récompensés.
Laurent Borde, sous Trimartelot, reprise celtique d'Alan Stivell. Lui a été récompensé sans le crépitement des flashs habituels chez Drouan à Paris. Mais
on
le
peut l'applaudir.
Est quand même très beau. Il est dans le studio, voilà, nous pouvons l'applaudir. L'écrivain Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez remporté donc hier le prestigieux prix littéraire pour votre roman L'Anomalie, publié chez Gallimard. Nous sommes ravis de vous retrouver après la discussion vendredi dernier déjà autour de ce roman. Guillaume, d'abord, quelques mots.
Il faut rappeler effectivement ce qu'est L'Anomalie, votre roman publié aux éditions Gallimard. C'est un roman qui joue avec les codes du roman autant qu'avec les limites du réel, dit par exemple Lacroix aujourd'hui. C'est une intrigue qui imagine le double atterrissage à New York d'un avion d'Air France avec le même équipage et les mêmes passagers, chacun et le monde entier étant bientôt donc confronté à cet étrange dédoublement.
Voilà pour la trame narrative. Hervé Le Tellier, que signifie pour vous la récompense des pairs, en quelque sorte, cette récompense d'un Goncourt pour votre roman?
C'est un véritable étonnement. Personne n'écrit un livre pour avoir le Goncourt. Donc il y a une sorte de surprise divine d'être couronné par effectivement ses pairs à l'issue en plus d'un assez long une assez longue attente, parce que la décision des jurés Goncourt, qui était tout à fait justifiée de différer la remise à l'ouverture des librairies, a fait que les quatre finalistes ont tous patienté pendant quatre semaines. Voilà, et c'était un long moment. Donc ça a été, je pense, une libération. Je l'aurais pas eu, j'aurais été aussi assez libéré de cette longue attente, quoi. Donc c'était assez long, vraiment.
Alors c'est une victoire pour la Drôme, comme le dit d'ailleurs le Dauphiné libéré ce matin, je l'ai sous les yeux. Hervé Le Tellier a des attaches dans la Drôme, c'est peut-être un peu carcéral comme formulation. C'est aussi une victoire pour l'Oulipo, car vous êtes président Le Tellier. Que signifie l'Oulipo et en quoi celui-ci a-t-il influencé votre écriture et notamment l'écriture de l'Anomalie?
Alors, l'Oulipo, c'est l'ouvreur de littérature potentielle, donc c'est un groupe de travail qui existe depuis maintenant 60 ans, 60 ans depuis une semaine d'ailleurs, et qui regroupe donc des mathématiciens, des physiciens, des amoureux du langage, des écrivains évidemment aussi, qui tous travaillent sur la littérature sous contrainte, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la manière dont un texte peut naître si on s'applique dans son écriture une consigne, une structure, une forme, ou ce qu'on appelle aussi une contrainte. Voilà, c'est un mot un peu bizarre, comme par exemple Pérec le fait en s'interdisant la lettre E, ou comme Italo Calvino peut le faire dans Le Château des Destins Croisés, lorsqu'il fait, à partir d'un travail sur les jeux de tarot, il construit un roman complet. Donc il y a l'idée toujours de s'imposer des choses pour commencer à écrire. On n'est pas systématiquement dans l'écriture sous contrainte. Il arrive parfois que des oulipiens écrivent des textes qui ne sont pas sous contrainte. Celui-là l'est légèrement, mais pas de manière extrêmement pas de manière puissante. Ça ne structure pas au point d'altérer la narration.
Clara Lecoq-Réal.
Et le Goncourt, Hervé Le Tellier, peut-il devenir une contrainte pour l'écrivain que vous serez dans les années qui viennent? Est-ce que ça va changer votre vie d'auteur?
Je crois que ça arrive à un moment de ma vie où ça peut plus beaucoup altérer ma démarche d'écriture. J'ai écrit une trentaine de livres avant. Je le vis comme un grand bonheur, évidemment. Mais
il n'y a pas d'attente.
Je pense pas qu'il y ait, enfin, il va y avoir un effet Goncourt. Il y a toujours un effet Goncourt qui a un effet à la fois sur les ventes, sur la visibilité nationale, internationale, qui fait que le livre aura un succès accru et que les livres antérieurs aussi vont pouvoir exister. Mais est-ce que ça va altérer mon travail futur? Je pense pas, d'abord parce que le fait d'être à l'Oulipo aussi a un effet de garde-fou, de pouvoir rester libre dans, parce que la contrainte crée de la liberté, de pouvoir rester libre dans sa création. Et je vois mal comment je pourrais tenter de vouloir, par exemple, refaire le même livre. Ça n'a jamais été mon cas. Et c'est pas parce qu'un succès sur un livre particulier existe qu'on a envie de le réitérer avec un autre qui ressemblerait. C'est pas mon projet du tout.
Une adaptation de l'anomalie en Syrie ?
Ça a été optionné il y a très longtemps, c'est-à-dire que début mars, au moment même où je remettais le manuscrit, j'ai eu des producteurs qui m'ont contacté pour l'optionner, j'ai accepté, donc maintenant on est en train de chercher, et ça sera beaucoup plus facile évidemment maintenant, des partenaires à l'étranger, pour réaliser une série qui est plutôt coûteuse, parce que moi, je me suis pas du tout limité, c'est un grand spectacle, c'est l'avantage de pouvoir écrire Guerre et Paix, si vous voulez, j'avais l'armée russe complète, donc moi j'ai un avion, j'ai un hangar, j'ai plein de gens, j'ai un embouteillage à Lagos, j'ai beaucoup de choses, donc s'il faut faire tout ça, ça va coûter un peu cher, mais ça va être facilité, je pense.
Bravo en tout cas Hervé, Le Tellier, l'anomalie, publié aux éditions Gallimard, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire, et je suis sûr que les auditeurs en ressentiront autant.
Et soulignons, Guillaume, une autre récompense hier pour Marie-Hélène Lafont qui a décroché le prix Renaudot pour son roman « Histoire du fils ». Quelques mots de la météo, Guillaume, pour terminer cette édition. Ce mardi sera gris encore. Les pluies s'en vont par l'est jusqu'à la mi-journée pour laisser place à quelques éclaircies en fin de journée. Ce matin, il fait 1 degré à Besançon, 4 à Lyon, 7 à Paris et 11 à Perpignan.
Merci Clara Lecoq-Réal. Dans quelques instants, on va retrouver nos invités formation et déformation de la police. Et puis un billet politique avec vous, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
En politique, l'art de reculer sans trop le montrer.
Dans quelques instants.